France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors chers amis de BFM TV et de CNews, avez-vous assez insisté sur le fait que vous diffusiez le débat des 11 prétendants à l'Elysée, un décompte depuis une semaine, des débats pour parler du débat qui se termine par, enfin on verra au débat, et cette expression premier débat historique, oui nous sommes au courant. Alors comme nous, en plus, on ne le diffuse pas, ce débat, on a essayé de bluffer, par exemple, en faisant une émission sur le chiffre 11, ou en vous proposant une pièce de théâtre, finalement, d'adaptation de Ocean Eleven, et puis on s'est dit, on ne l'a pas senti. Alors pour vous faire patienter avant ce rendez-vous télévisuel inédit, nous allons évoquer, bien sûr, eh bien, le débat ce soir. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Sybille Vincendon de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Également l'économiste Robin Rivaton, bonsoir.
Bonsoir.
Vincent Trémollet du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-François Aquili de France Info, bonsoir Jean-François.
Bonsoir, il manque 5 invités là.
Exactement, oui, mais ils vont venir, vous inquiétez pas. Et Jackie Isabello, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes cofondateur du collectif 3 débats sinon rien, donc vous êtes un peu l'homme de la situation ce soir, également communicant et cofondateur de l'agence Corio Link. Les informés de France Info, spécial débat avec nombre de candidats indécents entre 10 et 12, c'est parti. Une seule consigne aura donc régi cette campagne présidentielle, de l'inédit, encore de l'inédit, toujours de l'inédit. Nouveauté ce soir, le débat à 11, donc qui devrait durer minimum 3h45. Voilà, minimum, hein, véritablement. Alors comment bien aborder ce rendez-vous quand on brigue l'Elysée? La première chose à faire, et cela ne sera pas facile pour certains, est d'éviter de s'habiller comme les autres. Je leur conseille de ne pas répondre à toutes les questions posées, mais de marteler 2 ou 3 thématiques tout au long du débat. Et enfin, on s'en fout de respecter la minute pour répondre. Ces conseils sont prodigués par Jean-Luc Benamias, et oui, le candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire qui a fait 3 débats en janvier, qui a terminé dernier avec un peu plus de 1%, libre ensuite au candidat de le suivre. Un débat à 11, une vraie difficulté technique pour le réalisateur de cette soirée, Jérôme Revon.
Ce qu'on peut espérer, c'est aussi qu'ils s'interpellent. Donc il faut un dispositif qui leur permet à la fois de s'adresser aux Français à travers leur caméra, mais un dispositif qui leur permet aussi de s'interpeller s'ils en ont envie, si nos journalistes les relancent. Donc on a fait un dispositif en rond qui est presque un cercle total, ce qui est assez difficile à filmer. Donc on a placé les caméras tout autour sur des praticables. Il y a 11 caméras pour les gros plans, il y a 11 praticables, il y a beaucoup de lumière, il y a plus de 200 projecteurs. Donc on a fait un studio vraiment dédié à ça.
Voilà, le réalisateur du grand débat, Jérôme Revon, juste signaler, il a longtemps réalisé Fort Boyard, alors je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, Jackie Isabello, alors vous avez fondé le collectif 3 débats sinon rien, et vous avez publié une lettre que vous avez adressée d'ailleurs au CSA, vous plaignant, vous, de la dérive finalement que prennent aujourd'hui ces débats. Qu'est-ce qui ne vous convient pas aujourd'hui dans l'organisation de ces différents débats? Finalement, on va en avoir 3.
Alors, on a créé ce collectif avec le think tank Sinopia. Après le formidable engouement autour des débats des primaires, on s'est dit on est en train de changer d'époque. Et ce vieux débat qui avait été institué entre les deux tours en 1974 ne nous convenait plus. Et on a râlé une fois, mais on a surtout râlé deux fois. Parce que on s'est dit, ça peut pas être uniquement entre les deux chaînes. Hein. On peut pas uniquement faire le débat en prenant des critères économiques. C'est ce qui est en train de se passer pour le dernier débat. On a dit le CSA doit se mêler de ça et surtout les candidats doivent s'engager, s'ils étaient élus, à adopter une loi ou en tout cas à proposer un règlement. Parce que d'ailleurs, c'est installé, on l'a vu, lors du premier débat, Fillon s'est affirmé. Lors du second débat de la Belle Alliance Populaire, Benoît Hamon a été au-delà des autres. Là, lors de ce premier débat de la finale de la présidentielle, eh ben Jean-Luc Mélenchon a été assez admirable. Donc maintenant, il faut les encadrer un peu plus qu'ils ne le sont maintenant.
Finalement, et vous me direz, ce que vous souhaiteriez, c'est finalement la formule de ce soir, une formule complète à chaque fois, c'est ça?
Alors, moi, je ne donne pas de leçons de morale à ceux qui, en tout cas, de leçons d'organisation d'émissions à ceux dont c'est le métier. Hein. Jérôme Revon, c'est pas que le réalisateur de Fort Boyard.
Pas du tout, c'est également les vœux de la présidentielle.
Voilà, exactement. C'est vrai que c'est quand même un grand homme de télé. Ça s'installe, hein. Serge Moati a installé les fameuses 14 règles en 1981 pour organiser ces débats. Que les gens fassent leur lot. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas laisser ça aux deux chaînes. Pourquoi? Parce que tout le monde râle en disant à la fin, il y a beaucoup d'abstention et on considère que la télé, ça a un rôle statutaire et que ça doit permettre d'émerger une forme de leadership. Et c'est ça qu'on...
Jean-François Aquili, vous observez la vie politique depuis quelques temps maintenant. Justement, est-ce que vous avez remarqué, justement, vous, une différence, cette appétence finalement du débat aujourd'hui chez les Français? Est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'on a redécouvert ça avec les primaires finalement?
Oui, c'est un peu la nouvelle star. Hein. C'est le retour de la télé à succès avec des débats au fond spectacle. Mais en même temps, je suis pas sûr d'être tout à fait en harmonie avec ce que vous venez de dire. Je ne sais pas. Je pense que tout ça restera ad vitam une cote mal taillée. Certes, ce n'est pas terrible d'avoir 11 candidats qui s'expriment par petites tranches d'une minute trente, c'est ça, hein,
c'est
chacun.
Ça, exactement.
Mais en même temps, c'est la démocratie. À ce moment-là, changeons aussi la fameuse règle des parrainages, où remettons la barre plus haut pour ne pas en avoir 11, mais peut-être réduire la marque à la sortie. Trouvons une autre formule. La démocratie, aujourd'hui, la règle de la démocratie en France, c'est donc les 500 parrainages plus un maillage géographique.
Il y
en a 11. C'est très compliqué d'avoir un débat à 5. Donc du coup, effectivement, oui, il faut qu'il y ait les 11. 11 en même temps, certains trouvent ça absurde, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Est-ce qu'on se priverait de ce spectacle-là? Je n'en sais rien. Pour moi, c'est une cote mal taillée, mais ça a le mérite d'exister.
Vincent Trémollet, je sais que vous êtes un peu critique par rapport à ces débats finalement organisés.
Je suis doublement critique parce que je pense que Jean-François Aquili a très bien dit, il y a deux choses qui se confrontent. Il y a un désir de spectaculaire, de transformation de la politique en divertissement de masse sur le modèle des compétitions sportives, puisque maintenant on voit les joueurs avant et après,
d'une forme de
et sur les modèles des émissions type The Voice. Et puis il y a les vieilles règles du CSA et de la présidentielle qui font qu'il faut une équivalence de parole entre des candidats qui ne présentent pas le même intérêt et qui n'ont pas le... Et donc ces deux choses donnent la cote mal taillée dont a parlé Jean-François Aquili, avec le point que l'on va voir ce soir qui va quand même jusqu'à l'absurde, parce que 3h45 pour entendre successivement des gens qui représentent 1% des voix et d'autres qui en représentent 25% et peut-être le futur président de la République, je pense pas que ça restaure une image de
la
politique
telle qu'on voudrait.
Allez, alors justement, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Trop c'est trop, c'est l'horreur. La communauté internationale ne peut pas fermer les yeux. La réaction de Jean-Marc Ayrault après cette nouvelle attaque chimique en Syrie. Au moins 58 morts, dont 11 enfants. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui l'affirme sur la ville rebelle de Khan Cheikhoun. L'OSDH parle également de 150 blessés. De son côté, Damas dénonce une calomnie. L'attentat de Saint-Pétersbourg a été commis par un kamikaze kirghize, selon les enquêteurs russes. Il s'agit d'un homme de 22 ans. Il aurait également déposé la seconde bombe désamorcée à temps hier. Le bilan de cette explosion est toujours de 14 morts et une centaine de blessés. Plus de 10 000 manifestants cet après-midi à Kourou en Guyane. Les habitants ont répondu en masse à l'appel à la mobilisation, un sit-in géant pour réclamer plus de moyens. Une trentaine de personnes reçues en délégation par la direction du centre spatial. Elles sont restées et occupent désormais cette base de Kourou. 11 candidats pour un débat. C'est ce soir à partir de 20h40 sur deux chaînes info dans le cadre de la présidentielle. C'est inédit en France. Tous les candidats auront chacun 17 minutes pour argumenter. Un débat à suivre en intégralité sur notre site internet franceinfo.fr. Et puis Monaco-Lille au menu de la demi-finale de la Coupe de France de football. C'est à suivre à partir de 21h. En attendant, Guingamp s'est imposé il y a quelques minutes 1-0 face à Fréjus Saint-Raphaël.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de ce débat inédit, hein, sur la 5e République. 11 candidats vont s'affronter ce soir. Hein, ça sera peut-être le seul, sauf si France Télévisions, bien sûr, maintient le 20 avril prochain. Robin Rivato, à propos du côté politique-spectacle dont parlait Vincent Trémollet, il y a Jérôme Chartier, qui est le conseiller spécial de François Fillon, qui explique c'est la consécration de l'école Twitter. Pour qu'il y ait des passes, on doit être capable de la synthétiser en 140 signes. Est-ce que vous pensez que, finalement, c'est ça? C'est vrai qu'on, quand on dit sur un dossier énorme, quand on se souvient de, par exemple, je reprends François Fillon, qui était interrogé sur le commerce extérieur en une minute lors du précédent débat, est-ce que c'est ça, aujourd'hui, l'école Twitter?
Oui, c'est un peu ça, et on voit bien que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aucun politique ne peut exprimer une idée aussi complexe qui est celle de redresser le commerce extérieur ou de résoudre le chômage ou de résoudre la question communautariste en l'espace d'une minute ou de 140 signes. Et donc c'est au final la question même de la portée de ces débats pour les politiques qui interrogent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux refusent de participer possiblement au troisième débat, montrant bien qu'ils ne sentent même pas que c'est un facteur ou un vecteur qui est capable de changer la donne pour eux, qui est capable d'influencer positivement ou négativement dans leur campagne. Et c'est là où, en fait, quelque part, on peut mesurer l'appétence pour les débats. C'est-à-dire que même si les politiques eux-mêmes ne veulent pas y participer, alors qu'ils peuvent y gagner quand même un peu d'exposition, ils peuvent y gagner un peu de présentation de leurs idées, on peut se poser la légitimité de ces débats.
Juste une chose avant de vous donner la parole, c'est bien sûr, Jean-François Aquili, on sait que ça a été quand même un peu difficile à organiser. Hein. Jean-Luc Mélenchon a été réticent, comme il est réticent d'ailleurs au dernier débat. Ça a été complexe.
Oh, j'imagine que oui, parce qu'il y a toujours une part de risque finalement extrême pour certains candidats qui sont soit en marche, soit en vogue, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que perdre une élection parce que à un moment donné vous avez une attitude un mot de travers, c'est un pari difficile. C'est vrai que c'est plus d'ailleurs une confrontation de style, de prestation, de personnalité qu'un débat de fond. Mais ça, on le sait déjà. Mmh. Et finalement, ces candidats-là sont aussi jaugés à leur capacité à résister à certains exercices, à répondre. Ça a aussi une valeur informative, mais plus sur la personnalité, le style que sur le fond.
Alors Sylvie Vincent, donc justement, est-ce que pour vous, ça a été vendu finalement, est-ce que pour vous ce débat aujourd'hui dans la campagne, il est décisif ?
Mais pour moi, c'est pas un débat. Un débat, c'est ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, si Vincent dit nannerie, je lui dirais, mais vraiment Vincent,
ça n'arrive jamais.
Vous dites nannerie, ce n'est pas, c'est pas possible. C'est ça un débat. Ils ne débattent pas entre eux. Ça me fait plutôt penser à ma thèse en 180 secondes,
oui.
Hein, qui est un exercice assez difficile, mais toujours assez spectaculaire, on va dire. Mais sauf que les thésards se succèdent les uns les autres. Et là, j'ai vraiment l'impression que on est au cirque, quoi.
Moi, c'est ça qui me gêne. Ils ont débattu entre eux sur TF1. Juste un mot, ils ont débattu entre eux sur TF1 la dernière fois. Et ça risque d'arriver ce soir aussi.
Pas beaucoup. Oui, parce qu'ils sont, ils sont toujours dans cette espèce de dilemme entre est-ce que je prends du temps pour répliquer à mon adversaire qui, à mon avis, est en train de dire une ânerie ou que je voudrais quand même cornériser d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que je prends mon précieux temps de parole pour dire ce que j'ai à vendre ?
Alors justement, Jacky Isabello, finalement, en remontant dans les archives, enfin, on a regardé qu'il y avait eu une fois un débat à 11 qui n'était pas en France, c'était aux États-Unis. C'était en septembre 2015. Les 11 candidats à la primaire républicaine s'étaient affrontés sur CNN. Et en fait, c'est ce que dit un peu Sylvie Vincendon, il n'y a pas eu vraiment de débat. En fait, tout le monde est dans sa ligne parce que on se dit, c'est long, il y a du monde et je veux quand même exprimer quelques idées. Pour vous, ça reste quand même un débat, ça ?
Alors, vous savez, la France et les États-Unis, ce sont deux pays différents, je vais être assez tautologique, et surtout parce que les financements des campagnes politiques ne sont pas du tout à la même échelle. Donc, c'est absolument pas comparable. Moi, juste vous rappeler un truc, c'est que une campagne électorale, ça n'est que de la communication. Quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous arrivez avec votre grosse valise, vous mettez 200 millions sur la table, vous dites « je construis 50 collèges ». Ça, c'est de l'action. La campagne, c'est « Faucon Yaka ». Et la personne doit se dire « Ah, ce Faucon Yaka me convainc beaucoup mieux, je vais voter pour lui ». Et ça passe par de la communication. Et depuis le général de Gaulle, on sait que la télévision est fondamentale, puisqu'il nous a expliqué qu'il ne fallait pas y aller, et il s'est ensuite aperçu que c'était une mauvaise idée. Ouais. Et donc ces débats sont évidemment fondamentaux, et c'est pas du tout de la politique spectacle. Les gens reçoivent chaque jour 5000 messages. Les gens ont leur vie, ils ne vont plus dans les meetings, les jeunes ont le troisième écran, donc à un moment, la télévision peut imposer ce temps statutaire.
Et d'ailleurs, cette synthèse, finalement,
je vais vous dire, Jean-Mathieu, j'ai raison et je ne me suis pas permis d'interpeller Vincent parce que les audiences sont le juge de paix. Vous avez vu les audiences formidables qui ont été enregistrées. On aurait fait ça au début des débats. Moi, je me rappelle d'avoir fait quelques paris avec certains de vos confrères. Et ils me disaient, ça va être l'enfer. En fin d'émission, on n'aura plus d'audience. Eh ben, c'est pas ce qui s'est passé. Les gens se responsabilisent et ils vous remercient, vous les médias, à la télévision, de leur offrir pas en 180 signes, mais en une minute, un peu d'explication. Et celui qui le fait mieux que les autres, il affirme son leadership et on vote un peu plus pour lui.
Robert Rivaton, finalement, même question pour Cassibis Vincent. Pour vous, ça, c'est décisif. Est-ce qu'il y a un moment, il va y avoir un avant, un après ce débat à 11, où vous voyez, vous, pour vous, il n'y aura pas d'impact?
Non, je pense qu'il n'y a pas d'impact. Ça peut effectivement avoir ça peut convaincre certains électeurs, mais ça reste assez marginal et l'exercice se prête assez peu à l'explication de fond parce que vous avez des plateformes programmatiques qui ne sont pas sur le même monde. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont déconnectés de la réalité dans les propositions et donc on ne peut pas échanger, on ne peut pas débattre. Il est très difficile pour quelqu'un de débattre avec un candidat qui est dans une autre dimension, qui est en train de proposer des choses qui ne peuvent se réaliser qu'à des conditions que l'autre ne valide pas. C'est-à-dire, par exemple, par la sortie de l'euro, par exemple. Et donc, c'est pour ça que les débats se sont beaucoup confrontés entre les deux candidats, quelque part, les réalistes, et trois autres candidats qui ont une approche de la politique un peu plus volontariste, à défaut de savoir si elle est réellement réalisable. Et donc, on a eu ce décalage-là. Donc, le débat ne porte pas sur le fond, porte sur la forme. Et qu'est-ce qu'on en retient à la fin ? On retient plutôt des éléments de forme, en réalité. Et on a retenu les petites clowneries hybride de le talent burlesque humoristique de l'un, on a retenu l'affaire du téléphone portable de l'autre, et au final, c'est ces éléments-là qui restent dans, plutôt que les éléments de fond.
Oui, Vincent Trémollet, pour vous aussi, c'est ça. Aujourd'hui, on a tendance à
ça a été dit tout à l'heure, il y a une la capacité d'incarnation est quand même jugée durant ces 3h30, puisqu'on voit physiquement les candidats. Ensuite, moi, je pense que la nuance est la respiration de l'intelligence, et la nuance exige du temps. Et donc, on ne peut pas, en une minute et demie, apporter les nuances nécessaires à la réflexion. Alors certes, il y a des spectateurs qui y vont, qui regardent, et qui regardent, on ne sait pas avec quelle déception à la fin, et on ne sait pas avec quelle curiosité, parce qu'on va aussi dire la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on déplore que ça tourne au divertissement, mais on regarde quand même ce divertissement en se disant qui est-ce qui va mieux s'en sortir. Mais je ne crois pas que ça puisse avoir la qualité de certaines émissions politiques où le candidat est capable de s'exprimer, voire de débattre pendant 20 minutes ou une demi-heure sur des sujets précis, bien guidés.
Oui, Jean-François Aquilé,
vous voulez répondre. Je crois que la télé, c'est comme l'école, elle ne peut pas tout. Les Français ne sont pas forcément non plus tous paresseux. Une prestation comme ce débat télévisé me semble utile, je suis pas d'accord avec vous, je trouve ça utile, ne serait-ce que pour voir les personnalités bouger, s'exprimer, même sur des fragments de débats de fond. Et puis si j'ai envie de m'informer, bien j'ouvre Libé, j'ouvre d'autres journaux, sur le net, sur nos tablettes, sur nos smartphones, il y a tout ce qu'il faut. Les médias, France Info et les autres, jour après jour, semaine après
pour
semaine.
Pour vous, il faut assumer, Jean-François, c'est-à-dire le côté spectacle.
Mais oui, parce
finalement.
Que ça n'est pas tout, c'est un, j'aime bien ce mot, ce fragment, c'est un fragment de débats politiques qui est utile, parce qu'on les voit en chair et en on les voit se confronter, il y a une forme de réalité dans tout ça, et finalement, ceux qui veulent aller plus loin, ils ont tout ce qu'il faut, tous les outils à disposition, c'est sur le net, c'est dans les journaux, c'est à la radio, c'est partout, les programmes sont développés partout, il suffit de s'informer, et c'est un simple clic, ça va très vite. Donc je trouve ces débats utiles, au contraire, j'ai envie de les voir, moi, j'ai envie de voir ces personnalités bouger.
Alors, je sens que vous bouillez, voilà. C'est dans 20 minutes, vous inquiétez pas, vous allez tenir, en tout cas. Vous faites penser à un fan de Justin Bieber un petit peu, là, voilà,
juste avant. C'est pas inintéressant.
Voilà. Exactement. Allez, on va y revenir dans un instant. On va parler justement des premières cibles dans ces débats. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
En Guyane comme en métropole, un appel à la mobilisation toute cette journée. Selon Guyane Première, ils étaient au moins 10 000 à participer cet après-midi à un pique-nique géant devant Kourou, un sit-in. Une trentaine de personnes occupent encore les lieux après avoir été reçues par la direction du centre spatial. Rassemblement en soutien aux Guyanais, place de la République à Paris ce soir à l'appel de 3 syndicats solidaires FSU et CGT. Washington condamne une attaque chimique intolérable du régime Assad en Syrie. Le régime de Damas dément avoir mené cette nouvelle attaque chimique sur des civils et parle de calomnie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'attaque a fait au moins 58 morts, dont 11 enfants, 150 blessés dans la ville rebelle de Khan Cheikhoun. La tour Eiffel sera éteinte ce soir à minuit en hommage aux victimes de l'attentat d'hier à Saint-Pétersbourg. Le bilan est de 14 morts, une cinquantaine de blessés. Une enquête est ouverte pour acte de terrorisme. Un suspect a été identifié, un kamikaze kirghiz, un homme âgé de 22 ans. Vous le suivez en direct dès 20h40 sur notre site internet franceinfo.fr. Le débat pour les présidentielles avec les 11 candidats organisé à la télé par deux chaînes info. 17 minutes par candidat. Interdiction d'utiliser son portable pendant les discussions. Cette sociologue et militante féministe était l'une des créatrices du planning familial. Evelyne Sullerot est morte. Elle avait 92 ans. Elle avait permis la mise en place dès les années 60 de ces lieux d'écoute et d'information pour les jeunes, les femmes, les couples, sur la sexualité et les moyens de contraception.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de ce débat qui réunit les 11 candidats avec 3 thèmes principaux, emploi, sécurité et modèle social et des cibles. Chacun va peut-être régler ses comptes. Sybille Vincendon, certains ont identifié une cible principale, Emmanuel Macron. Pour vous, c'est lui qui va être ciblé par tous les candidats ?
Ça paraît... je ne sais pas s'il va être ciblé par tous les candidats, par exemple, parce que il y a quand même les petits candidats qu'il faut quand même prendre en ligne de compte.
On en parlera.
Est-ce qu'ils vont se focaliser sur Macron ou est-ce qu'ils vont se focaliser sur cette occasion inespérée et puis surtout pas fréquente de pouvoir s'exprimer devant je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs et de Français. Enfin, ça n'arrive pas tous les jours à Asselineau ni même à Arthaud.
On va en parler tout à l'heure de ces
donc, petits candidats. Donc, est-ce qu'ils vont être occupés à... C'est les autres qui vont se s'acharner sur Macron.
Justement,
parce que les autres, ils ont un enjeu.
Vincent Trémollet, on se souvient de lors du dernier débat, le 20 mars sur TF1, finalement, beaucoup de spectateurs étaient surpris de voir que Emmanuel Macron était d'accord au moins une fois avec tous les candidats. Est-ce que finalement, vous pensez qu'aujourd'hui, ça va poser un problème finalement, c'est ces différentes approbations d'Emmanuel Macron.
La difficulté devant laquelle il est, c'est qu'avant le premier débat, il était quand même peu connu, il était présenté comme une sorte de Mozart de la politique. Et il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été époustouflant. Donc il y a un peu de l'alchimie et de la magie qui a disparu. Depuis, moi je trouve que quand on regarde le discours de Marseille, il y a quand même une facilité à je ne sais pas si c'est à s'énerver, mais à crier de façon un peu curieuse. Et donc, je pense que le défi pour lui ce soir est de garder son sang-froid et de montrer qu'il ne cède ni à l'envie de séduire, et dire qu'il est toujours d'accord, ni à l'envie de répondre, parce qu'il y a quand même eu ça aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il disait « c'est pour moi ». Quand on ne l'attaquait pas, il répondait. Et là, à mon avis, l'enjeu est pour lui d'essayer de rester en retrait, en surplomb.
C'est en tout cas ce qu'il a fait dans l'interview du Monde hier, où il a dit exactement « la personne à abattre, c'est Marine Le Pen, c'est pas moi, je comprends pas pourquoi je suis au centre du jeu, je ne dois pas être au centre du jeu, puisque c'est elle qui y est ».
Alors hier, en effet, mais il a également ciblé François Fillon en disant qu'il réalisait le rêve de Patrick Buisson, c'est dans ses mots, c'est comme ça qu'il a défini François Fillon.
L'interview montrait d'ailleurs que c'est un politique en fait assez aguerri.
Il y avait des côtés cambadélicien, c'était quand même intéressant.
Il n'est pas si novice que ça.
Robert Hibaton, vous-même, vous êtes économiste et on se souvient que finalement, tout à l'heure, on parlait de l'absence de débat, mais finalement, les seules discussions un peu animées la dernière fois, c'était bien sûr sur l'économie. On se souvient ce triangle Mélenchon-Macron-Fillon qui s'était un petit peu accroché. Est-ce que là, on va pouvoir voir véritablement, à votre avis, des discussions, par exemple, sur les 500 000 fonctionnaires en moins de François Fillon ou le revenu universel ça peut être...
Absolument pas, tout simplement, parce que les 6 candidats qui n'étaient pas présents au précédent débat n'ont pas chiffré de programme, n'ont pas fait de propositions qui sont mesurées, donc ne se sont pas soumis à cet exercice, qui est quand même encore une fois remarquable et qui dure depuis 2 élections, qui est celui de l'évaluation des programmes, celui des think tanks qui proposent de mesurer certaines des propositions qui sont faites. Et aujourd'hui, aucun des 6 candidats n'est là-dedans. Donc, quand ils ne sont pas là-dedans, ils n'ont aucun intérêt à rentrer dans le jeu du sérieux et de la rigueur de l'exercice. Et donc, en ne rentrant pas dans ce jeu-là, ils s'écartent totalement des propositions qui sont faites par les autres, qui, elles, doivent passer quelque part sous les fourches codines de l'évaluation et du réalisme.
Mais pourtant, sur les programmes économiques, on voit quand même, là, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même des vraies différences.
Il y a deux camps. La façon dont je le vois aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a deux candidats qui sont dans une logique où ils partent de la situation existante et ils prétendent l'amender dans des proportions réalistes. Et vous avez trois candidats qui proposent des mesures qui sont hors de contrôle de la situation existante en proposant de remettre en cause des règles du jeu qui malheureusement nous sont très clairement données, que ce soit l'appartenance à l'Union européenne ou la mondialisation. Donc après on peut prétendre s'en extraire et s'en sortir, je doute que ce soit possible.
Alors Jean-François Akili, tout le monde a finalement à gagner, à perdre dedans dans cette élection. C'est vrai qu'entre Benoît Hamon qui peut relancer sa campagne, Emmanuel Macron qui ne doit pas bouger, Marine Le Pen également, on voit que ça peut être un exercice finalement passif et en même temps très actif.
Moi, je suis très curieux de savoir comment Jean Lassalle va relancer les emplois en France. Non, sérieusement, je crois qu'il y a, beaucoup à perdre sur n'importe quel débat télévisé, mais surtout à 11, une petite phrase de travers, un petit mot. Regardez François Fillon chez Jean-Jacques Bourdin avec cette question... étonnante. Est-ce que vous faites des économies
Ou Bruno Le Maire, lors des débats, qui n'a pas été bon et qui s'est fait rabrouer directement par ces deux opposants sur la définition des emplois publics.
Absolument.
On n'a pas parlé de Nicolas Dupont-Aignan, mais Dupont-Aignan a un vrai enjeu ce soir.
Alors, nous sommes d'accord en plus là-dessus. Je pense qu'il y a à gagner, je ne sais pas, à perdre, oui. Une petite phrase de travers, une mauvaise réaction... une mauvaise humeur sur telle ou telle invective d'un autre candidat et finalement vous perdez des points assez facilement. Je crois que c'est le côté un peu piégeux, je n'aime pas ce néologisme, mais ça définit bien ce que ça veut dire. Vous répondez de travers, on pourrait dire « Ah, mauvais joueur !» Et puis finalement, c'est une petite machine, une petite musique, machine à perte qui peut démarrer sur pas grand-chose.
C'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et bientôt Fillon refusent d'y aller le 20 avril, parce que s'il se passe
si près
l'événement dont vous parlez, vous avez en 3 jours, c'est irrattrapable.
Surtout qu'après, vous n'avez que le vendredi en plus, puisqu'après, ils ne peuvent plus
pas
parler.
Grand-chose donc gagner,
la prudence recommande de ne pas s'y rendre.
Allez, dans un instant, on va parler justement de ces autres candidats qui, pour la première fois, vont s'exprimer en débat. On parlera également de cet homme providentiel qui fait rêver tous les candidats, et également de cette forte peut-être abstention qui se profile. Voilà la suite à venir dans Les Informés de France Info.
Ah tiens, j'ai revendu ma Mini.
Pourquoi ?
J'ai trouvé mieux.
Mais non.
Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul.
Ok, ok, t'as hérité.
Non, 295 euros par mois.
Mais c'est quelle voiture ?
L'édition Mini Shoreditch.
D'accord.
Vous aussi, surprenez vos amis avec l'édition spéciale Mini Shoreditch à partir de 295 euros par mois, sans apport sur 36 mois, entretien inclus.
Méné.
Exemple pour l'édition Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée. Valable jusqu'au 31 mai 2017 sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr.
Des aventures humaines exceptionnelles. Des expériences dont on ne sort pas indemne. Des découvertes du passé qui pourraient changer le futur. Des secrets enfouis depuis des millénaires enfin dévoilés. Dans...
Ah, mais ça n'est pas du cinéma.
C'est de la science.
Le grand spectacle de la science. C'est tous les mercredis à 20h50 dans Science Grand Format sur France 5.
France Info Météo avec Gautier. Fabricant français de mobilier contemporain à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Demain matin, le ciel sera chargé du golfe du Morbihan aux frontières du Nord avec quelques pluies ou brines isolées possibles. Cette couche nuageuse progressera un peu vers l'est et le sud-ouest, mais sera moins compacte demain après-midi, laissant même filtrer des trouées. Sur les Alpes et les départements pyrénéens, le temps sera nuageux également avec quelques rares averses, alors que les éclaircies seront plus nettes des côtes vendéennes et landaises à l'Alsace et aux Préalpes. Le long des côtes de la Manche, le ciel va rapidement s'éclaircir dès la matinée et l'après-midi sera même agréable de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Autour de la Méditerranée, la matinée sera bien ensoleillée, mais les conditions vont devenir instables demain après-midi en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des averses localement orageuses, voire de la grêle en Provence. En début de journée, le mercure affichera 4 à 11 degrés et l'après-midi, les maximales seront comprises entre 12 et 22 degrés.
Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr.
NF Habitat, une certification de l'association Qualitel.
NF Habitat, la vie devant soi.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demain après l'attaque chimique en Syrie, réunion demandée par la France, notamment attaque d'un village près d'Idlib dans le nord-ouest du pays. Il a fait plusieurs dizaines de morts, une soixantaine et des centaines de blessés, dont des enfants. La Russie dément être à l'origine de ce raid. L'opposition syrienne, elle accuse le régime de Bachar el-Assad d'avoir mené l'attaque. D'après les observatoires, les ONG sur place, le caractère chimique du bombardement ne fait guère de doute. À Beyrouth pour France Info, Omar Waman.
Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux par des témoins et notamment par des militants anti-régime, on peut voir plusieurs corps sans vie allongés, les uns à côté des autres, sans trace de blessure apparente. Plusieurs sources médicales évoquent la présence de mousse dans la bouche des victimes, parmi lesquelles on comptait ce matin au moins 11 enfants. Une famille entière a été décimée par ce bombardement que l'Observatoire syrien des droits de l'homme qualifie d'attaque chimique, sans préciser la nature du gaz ni si ce raid aérien était le fait de l'aviation syrienne ou de la Russie. L'attaque a visé un village proche de la ville de Khan Cheikhoun dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, contrôlé par le front Fatah el-Shem, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Une frappe qui a également fait des dizaines de blessés, dont une majorité de civils. Plusieurs heures après ce raid aérien, une nouvelle frappe a cette fois-ci visé l'hôpital dans lequel les blessés de l'attaque chimique étaient pris en charge. Selon des témoins, une partie de l'établissement aurait été endommagée. Beyrouth, Omar Waman, France Info.
Et puis à Bruxelles, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, réagit également. Elle rejette, elle aussi, comme l'ensemble de la communauté internationale sur le régime de Damas, toute la responsabilité de cette attaque meurtrière. J'ajoute que des perquisitions visant des biens de la famille Assad, en particulier son oncle, sont en cours en Espagne, dans la station balnéaire de Marbella, dans le sud du pays. La tour Eiffel plongée dans le noir à partir de minuit ce soir en hommage aux 14 victimes de l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg hier. L'auteur a été identifié, c'est un jeune homme de 22 ans, né au Kyrgyzstan mais de nationalité russe. Des restes de son corps ont été retrouvés parmi les victimes dans la rame où l'explosion a eu lieu. Il était apparemment lié au milieu islamiste. Il avait aussi déposé une seconde bombe, désamorcée à temps également dans le métro de Saint-Pétersbourg. Le parquet de Lille ouvre une enquête préliminaire sur des soupçons de fraude du groupe Front National. Laval au conseil régional de Nord-Pas-de-Calais. Révélation du canard enchaîné. Les enquêteurs soupçonnent le FN d'avoir rémunéré avec des fonds publics des collaborateurs qui auraient en réalité travaillé au service du parti. La justice s'intéresse notamment au cas de David Rachline, aujourd'hui directeur de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Il est 20h33, les informés.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, alors que dans quelques minutes va commencer le programme que tout le monde attend, à savoir Space Jam sur Gulli, bien sûr, avec Bugs Bunny. Eh bien, nous les remercions, ils sont là toujours autour de la table des informés de France Info, et ce soir nous recevons Sybille Vincent-Don de Libération, l'économiste Robin Rivaton, Vincent Trémollet du Figaro, Jean-François Achilly de France Info et Jackie Isabello. Alors vous êtes fondateur du collectif, cofondateur du collectif 3 débats, sinon rien, communicant, cofondateur de l'agence Corioling. Bien sûr, il y a les 5 candidats les mieux placés dans les sondages, mais ce soir, dans le grand débat, on en a déjà parlé, ceux qui seront observés, scrutés, analysés, ce sont les autres, hein, ceux que l'on voit rarement et qui représentent des tendances politiques peu médiatisées. Nathalie Arthaud, de Lutte Ouvrière, Nicolas Dupont-Aignan, de Debout la France, Jacques Cheminade, du Parti Solidarité et Progrès, François Asselineau, de l'Union Populaire et Républicaine, Résistons. C'est le mouvement de Jacques Cheminade et non de Jean Lassalle. Et donc, l'heure est venue de se distinguer, mais... Ah, mais justement, parce qu'on va en parler. Vous m'avez cassé tout mon effet. Merci, Vincent Trémollet. C'est incroyable, ce complot du Figaro. C'est cabinet noir, en fait, du Figaro. Voilà, l'heure est venue de se distinguer, mais n'en faisons pas trop quand même, selon le candidat du nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou.
Je me prépare comme ça, justement. Voilà, aller voir des copains, des collègues, des gens qui se battent. Il n'y a pas de stratégie. C'est pas ce que je dis tout le temps. C'est pas la finale de la Champions League ce soir. Hein, voilà. Là, on est vraiment dans du sport spectacle, quoi. C'est de la politique spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, tout se jouerait là. C'est du pipeau, quoi. Voilà, on va être dans des histoires de posture. Hein, tout va être mesuré. Comment on réagit, enfin voilà. Non, c'est pas très sérieux tout ça. Mais enfin bon, on y sera quand même. On essaiera de dire ce qu'on a à dire parce que ça vaut le coup.
Alors voilà, donc ça c'est Philippe Poutou, candidat du NPA. Sybille Vincent, on le voit finalement avec Philippe Poutou, ça sera davantage pour certains, ils ont conscience finalement aujourd'hui de leur poids, mais pour eux c'est quand même une possibilité de faire passer des idées. C'est ce qui se...
Je pense que quand on voit les passages de Philippe Poutou à On n'est pas couché, où il s'est fait véritablement martyriser d'une manière assez indigne quand même, peut-être que là, il va pouvoir dire ce qu'il a à dire, même si c'est en 180 secondes, et malgré tout, il aura passé un message. Alors, en même temps, bon, c'est vrai que c'est très curieux ce débat où il y a d'un côté des gens pour qui c'est véritablement un enjeu, et les autres qui font un peu des claquettes. Mais on a connu pire quand même dans l'histoire de la Ve République, quoi. On a regardé, nous, cet après-midi, dans nos archives sur Internet, qui n'oublient jamais rien. On a retrouvé le président de la... Comment ça s'appelait ? Du Parti de la Nature. Bref, il s'appelait Benoît Frappé et il défendait le vol yogique.
Oui, tout à fait.
Hein ? Il était aux européennes. C'est vrai qu'il ne s'est pas présenté à la présidentielle. On a retrouvé le débat, enfin, plus exactement, l'interview de Wächter par un castor. Je ne sais pas si vous
souvenez
de ça.
C'est vrai, exactement. C'était très récemment aux européennes, d'ailleurs.
Voilà, donc tout ce qu'on va voir là sera de bonne tenue,
par
quand même,
castor
en comparaison.
L'interviewé.
Enfin...
Alors, je vous rassure, Vincent, il était déguisé, ça. C'était un homme
je
déguisé.
Je pense qu'il y avait un humain dedans.
D'accord, il parle, je croyais qu'il parlait castor, moi.
Alors, il y a une chose quand même qui est assez étonnante, Jean-François Achilly, vous qui justement observez finement cette vie politique, ce qui est étonnant, c'est quand même, on parle de ces autres candidats, quand on regarde les parrainages publiés aujourd'hui par le Conseil constitutionnel, on se rend compte que, par exemple, Jean Lassalle ou Nathalie Arthaud ont plus de parrainages que Marine Le Pen. C'est ça qui paraît étonnant. Comment, pourquoi finalement aujourd'hui, ce sont des candidats, c'est-à-dire qui travaillent davantage le terrain, dont le message porte davantage?
Alors je sais qu'ils ne vont pas apprécier, mais ce sont des boutiques en fait. C'est-à-dire que vous avez des formations politiques dont finalement la principale activité souvent est de travailler sur le terrain, sur la longueur, sur la distance, pour ramasser ses parrainages et exister quinquennat après quinquennat. Vous savez, moi, je trouve que entendre Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou, moi, ça m'intéresse. Parce que on donne la parole à d'autres personnalités. Elle le dit elle-même. Je ne veux pas être président de la République, mais elle veut porter la voix des travailleurs, du peuple, des laissés pour compte. Et je trouve que ça fait du bien à entendre. Et pour moi, ça, c'est un morceau de démocratie. On peut être d'accord, pas d'accord avec les idées qui sont édictées. Ce n'est pas le sujet. Ça me fait du bien d'entendre ça.
Oui.
Vous voyez, donc, alors ensuite,
et sur les... Et dans d'autres conditions que chez Ruquier.
Voilà, c'est ça. Et c'est avec une certaine forme de dignité, c'est ce que vous disiez à l'instant. Et sur l'histoire des parrainages, écoutez, si certains sont dérangés par cette affaire des 11 qui discutent à coup de 1 minute 30, eh bien qu'on change la règle des parrainages et qu'on en vienne à mettre 2000 parrainages avec 50 départements, 100 départements, je ne sais quoi, avec même, pourquoi pas, une barrière financière pour qu'on entende que les 3-4 candidats des grands partis. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait ces petits candidats, ces autres candidats qui s'expriment. Ça fait un petit peu du bien à la démocratie et à la France.
Romain Ridaton, pour vous, justement, aujourd'hui, la présence, finalement, nombreuse, de ces autres candidats, pour vous, c'est important, comme disait Jean-François Aquili, pour montrer cette diversité?
La diversité qui est quand même très orientée à gauche, en l'occurrence pour les deux candidats qui viennent d'être cités, et puis pour des autres idées ou des autres projets qui sont présentés, qui ont parfois toutes les caractéristiques de la loufoquerie. On va pas citer de nom, mais je pense que...
Pensez qui?
Je pense à, par exemple, le projet de Jacques Cheminade, qui nous avait déjà servi en 2012 avec un succès somme toute assez modéré, et qui, j'en ai pas certain d'avoir une utilité vraiment sociale de le réentendre une deuxième fois. Donc aujourd'hui, peut-être que cette règle des parrainages, elle existe. Si on la franchit, on la franchit effectivement. Aujourd'hui, elle est ainsi. Donc écoutons ces gens-là. Juste pour remettre quand même un point sur ce que vous avez dit sur On n'est pas couché. Il y a deux ans, ils avaient invité Monsieur Asselineau, sous pression des internes, du moins sous une forte mobilisation de la communauté de
des
Asselineaux, de l'UPR. Et donc il était passé, il avait eu droit d'audience, alors même qu'il y avait aucune règle d'audience ou de temps de parole, et donc il avait pu exposer ses idées, y compris dans cette émission là.
Allez, on va juste devoir libérer Jean-François Aquili, parce que
juste un petit mot rapide. Asselineau, ce soir, imaginez qu'il fasse un tabac sur ce plateau de télévision et qu'il grappille des points à droite. Ça peut changer la donne.
Alors, on verra ce soir, en tout cas, vous débrieferez ce débat pour France Info, justement, le débat. Voilà, vous restez très tard.
1h du matin.
Exactement, vous restez très tard. Merci, en tout cas, d'être passé ce soir, et on vous souhaite un bon débat, Jean-François.
C'est ça, merci.
Et oui, c'est parti, en tout cas.
À la prochaine.
Allez, l'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain pour évoquer en urgence cette nouvelle attaque chimique en Syrie, au moins 58 morts, dont 11 enfants, une affirmation de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un bombardement sur la ville rebelle de Khan Cheikhoun. L'OSDH évoque également 150 blessés. De son côté, Damas dénonce une calomnie. L'attentat de Saint-Pétersbourg a été commis par un kamikaze kirghize, 14 morts, une cinquantaine de blessés. Selon les enquêteurs russes, le suspect de 22 ans aurait également déposé la seconde bombe hier après-midi dans une seconde station. L'engin a pu être désamorcé à temps. Plus de 10 000 manifestants accourront en Guyane cet après-midi. Les habitants participaient à un sit-in géant 24 heures après les dernières propositions du Premier ministre Bernard Cazeneuve. Rassemblement de soutien actuellement à Paris à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires. 11 candidats pour un débat, c'est dans quelques minutes sur deux chaînes info dans le cadre de la présidentielle. C'est inédit en France à 19 jours du premier tour. Tous les candidats auront chacun 17 minutes pour argumenter. Un débat à suivre en intégralité sur notre site internet franceinfo.fr. Et puis dans les Pyrénées, il y a au moins 39 ours. La préfecture de région Occitanie parle d'une évolution lente mais croissante de la population. 39 ours, 20 ans après leur réintroduction controversée en montagne, des éleveurs continuent de contester les dégâts qu'ils fabriquent.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de ce débat inédit en France à 11 candidats. Jacques Isabello, vous militez pour qu'il y ait davantage de débats en France. Pour vous, on parle de ces autres candidats, voilà, les 6 autres candidats tout de même qui sont majoritaires ce soir. Pour vous, cette égalité finalement entre candidats, elle est réelle ou c'est un fantasme en France ?
Elle n'est pas véritablement établie. Hein. Regardez ce qui s'est passé le 20 mars. On a vu les 5 principaux sur TF1. Et donc, ce qui est embêtant avec celui qui va se dérouler ce soir, c'est que les gens vont pouvoir comparer. Et vont pouvoir se dire, il y avait le débat des stars, et là maintenant, il y a un débat pour faire plaisir. Et ça, c'est quand même dommage, parce que lors des primaires, tout le monde était à égalité. Et puis, lors de 3 débats, ils ont pu se confronter. Par rapport au parrainage, il faut quand même dire que les parrainages, c'est l'expression aussi de l'ensemble des élus du territoire. Mmh. Et en France, il y a 44 000 élus qui peuvent donner leur parrainage. Vous savez combien il y en a qui le donnent ?
Non, combien ?
Il y en a très très peu, il y en a 14 000 seulement. Donc le premier parti des abstentionnistes, c'est le parti des élus. Et ça, je trouve ça assez étonnant. Donc quand même que ceux qui s'impliquent puissent faire apparaître des petits candidats, c'est assez sympathique.
Moi, je pense que la question est moins celle des parrainages que celle du temps de parole et du CSA. C'est-à-dire qu'on a une structure qui est complètement anachronique, qui est le CSA, qui passe là ses journées et ses nuits à vérifier si sur France Info, sur CNews, sur Europe 1, Monsieur Cheminade a eu autant de temps de parole qu'un autre. Et pourquoi ? Alors qu'en plus, il y a maintenant tout un continent numérique où cette règle n'existe pas.
Exactement.
Et là, je suis désolé, c'est absurde si TF1 a envie d'inviter 5 candidats. Si une télévision voulait faire un débat sur l'Europe en mettant Mélenchon et Le Pen et Macron, Fillon en face, ça serait intéressant. On pourrait.
Bien sûr.
On pourrait faire des débats entre marxistes. Il y a des chaînes marxistes avec Poutou et Arthaud. On pourrait faire des débats.
C'est un point majeur. Le CSA, nous, on l'a saisi et il nous a expliqué la première fois qu'il ne pouvait pas. Parce qu'il n'avait pas le mandat pour pouvoir imposer des règles. Donc il aurait fallu, ça va faire plaisir à Robin, qui aime bien les idées un peu, qui sont proches de la liberté, il aurait fallu que le CSA souligne qu'il soit saisi par le gouvernement, qu'il lui dise, dans votre délibération, c'est pas mal, tiens, vous allez me faire un règlement. Donc c'est extrêmement complexe. Et ce qui est dommage, c'est que personne n'ait réagi en disant, il faut institutionnaliser ça parce que c'est très important. Donc, donnons un mandat rapidement au CSA pour qu'il lise à l'ensemble des chaînes. Organisez-vous et qu'il y ait une organisation logique parce que vous l'avez dit. Pourtant, et d'ailleurs, c'est le patron d'M6 qui le rappelle souvent. Il dit, en France, on a le secteur industriel le plus réglementé. C'est le secteur de l'audiovisuel. Et là, ça aurait été important. Et on n'a pas pu le faire.
Et pourtant, il y a eu une nouvelle réglementation. Je précise juste le CSA entre le temps, l'équité et l'égalité. Enfin, voilà,
CSA
ça a été.
CSA s'épuise là-dessus.
Et on compte des cerises dans un panier.
Il y a les gars, Google, Facebook. Qui sont en train de s'emparer des médias, de prendre les chiffres de publicité, de les étrangler. Et peut-être le CSA pourrait se préoccuper de ça, pour essayer de défendre l'information qui ne viendrait pas des États-Unis, plutôt que de compter le temps de parole pour savoir si... Là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument anachronique qui n'a pas de lien avec les 500 signatures, mais qui devrait disparaître, qui n'a plus de raison d'être.
Romain Baton, pour vous, ça, c'est un modèle, justement, à revoir, aujourd'hui, sur ce temps de parole, sur...
Oui, alors après, les conditions de règles d'égalité qui n'empêchent pas que la question de l'exposition médiatique, elles empêchent notamment la question de l'exposition financière. C'est-à-dire que vous avez des plafonds qui empêchent les grands candidats pourraient dépenser beaucoup plus d'argent pour favoriser leur campagne. Ces règles-là, elles ont quand même un sens, elles permettent quand même un maintien d'un débat démocratique et dont on peut voir toutes les dérives dans d'autres pays. Donc j'ai du mal à voir. Et la puissance de la télé aujourd'hui est telle qu'elle est quand même pas encore totalement compensée par le continent Internet, sachant que les gens qui votent regardent beaucoup plus la télé qu'ils ne vont sur Internet. On a quand même aussi ce décalage de population entre les gens qui vont réellement voter et la participation du corps électoral dans son ensemble. Donc je reste quand même un tant soit peu attaché à ces règles-là. Après, aujourd'hui, elles sont devenues tellement complexes et tellement illisibles, on ne peut pas les expliquer aux auditeurs.
C'est-à-dire même nous, on ne les comprend pas.
Vous y passez des heures sans que ça n'ait aucun sens.
C'est pas le point le plus important.
Et donc, c'est pas le point le plus important. Et en même temps, ça l'est quand même. Parce qu'on ne pouvait pas faire de la publicité payante, il vous reste que la presse. Et donc, c'est aujourd'hui le point pour la plupart
et
des
candidats. Et la presse écrite n'est pas soumise à ces règles.
Non, voilà,
c'est ça. On a une très grande compassion pour vous.
C'est très gentil. Merci, Vincent. Allez, des idées, des femmes, des hommes, une farandole républicaine. Oui, la course à l'Élysée s'accélère dans cette dernière longue ligne droite. Manque plus que d'aller voter. En fait, c'est bon. Et en fait, là est le problème, puisque jamais une élection présidentielle n'a autant interrogé les Français. Justement, un Français sur trois n'a pas encore décidé pour qui il allait voter. Et 35% envisageraient de s'abstenir. Le scrutin préféré des Français est en train de les déboussoler. Tout reste donc possible, selon le président de l'Institut de sondage Odoxa, Gaël Sliman.
Au moment où on se parle, les débats vont être décisifs, qu'il y a clairement deux favoris dans les enquêtes aujourd'hui, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais que ces débats et ces dernières semaines de scrutin peuvent encore rebattre les cartes et laisser quelque espoir à ceux qui sont pour le moment donnés éliminés.
Le président de l'Institut de sondage Odoxa, Gaël Sliman, sur France 3. Sybille Vincent, donc finalement, pourquoi aujourd'hui ce doute chez les Français? Qu'est-ce que c'est? C'est les affaires qu'on a vécues depuis janvier? C'est quoi? C'est la classe politique?
Et parce que la situation, toutes les grilles de lecture se sont écroulées ou sont en train de s'écrouler. Moi, je pense parfois dans des réunions, peut-être que Vincent vit la même chose au Figaro, on discute, on a des journalistes qui sont très aguerris là-dessus. Et ça me fait penser, vous savez, à cette époque où le mur s'est écroulé, le mur de Berlin. Et tout d'un coup, toute une armée de kremlinologues, de soviétologues qui étaient extrêmement pointus, qui avaient un savoir incroyable sur la politique, position de chacun dans les photos officielles et machin qui recrutait, qui reculait de trois rangs, bidule qui avait disparu. Et tout ce savoir s'est écroulé. Alors certes, en 89, ça a été un peu violent. Là, c'est moins violent. Mais on sent que toutes les grilles de lecture, tous les repères sont extrêmement difficiles. Et je pense que pour les électeurs, c'est exactement la même chose. Plein de gens sont paumés quand même.
C'est ça, Vincent Trémollet. On remarque, c'est quoi, c'est, est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est un long processus finalement?
Non,
qui...
mais il y a un processus de recomposition dont on a beaucoup parlé ici, oui, intellectuel et politique, qui est évident, qui là, moi je trouve, est représenté par des figures qui malheureusement n'incarnent pas véritablement ces choses-là, mais ça c'est un autre problème. Après, je pense qu'il y a quand même un autre phénomène, qui est le phénomène de l'information continue et compulsive, notamment celle des réseaux sociaux, ouais, qui fait que on ne sait plus si c'est une campagne électorale passionnelle ou raisonnable. C'est-à-dire, est-ce que les gens réfléchissent ou est-ce que les gens réagissent? Et quand les gens réagissent, bah, ils changent quand même d'avis très souvent. Alors, le phénomène Mélenchon, pour ça, est très intéressant. Peut-être Mélenchon va-t-il faire un gros score, mais moi, je pense qu'il a été bon au débat et que donc, comme après un bon The Voice, pendant une semaine, dans les dîners, dans les conversations de famille, on a dit quand même, il est bien ce Mélenchon et peut-être les intentions de vote, on lui a donné. Mais j'en parlais avec un politologue, Jérôme Jaffré, qui disait, mais ça cristallise pas pour l'instant. Oui. On ne sait pas.
D'accord.
Donc, il y a quand même une incertitude importante. Donc, là, il y a une recomposition politique évidente qu'on voit avec Macron-Le Pen, qui suit une recomposition intellectuelle, mais s'ajoute à ça quand même ce phénomène d'une sphère médiatique qui va trop vite.
Romain Gnaton, pour vous, c'est ça? Est-ce qu'on peut lier les deux, finalement, aujourd'hui, cette interrogation sur le choix à la présidentielle et c'est les médias qui vont trop vite aujourd'hui?
Oui, mais surtout quand on regarde encore une fois la décomposition des choix par âge, c'est là où les choses apparaissent, ouais, de manière très, très frappante. C'est qu'on voit aujourd'hui une abstention et une indécision croissante chez une partie du corps électoral qui est parmi le corps électoral les plus jeunes. Et c'est aujourd'hui ce 18, décalage.
18-34 ans, en effet.
18-34, c'est déjà très fort. Et même en dessous de 40, on a des effets de génération qui sont très très forts. Aujourd'hui, les électeurs les plus âgés savent qu'ils vont se déplacer, et ils vont se déplacer comme ils l'ont fait en 2012. Ils ont déjà fait une partie de leur choix, et leurs choix sont assez cristallisés, sont assez certains. Et il y a un intérêt pour la politique qui a été pour cette élection qui a été faite, qui a commencé dès en amont. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres électeurs qui ne veulent pas aller voter, qui ont un désenchantement, non pas qu'avec cette élection, un désenchantement global vis-à-vis de l'élection et du pouvoir qui est accordé à la classe politique et du crédit qui lui est accordé pour pouvoir mener un changement concret dans leur vie. Et ce désenchantement fait qu'une grande partie du corps électoral peut aussi s'abstenir dès le 23 avril.
On va en parler, justement, on va continuer à en parler de cette abstention et de ce doute autour de la classe politique. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Trop, c'est l'horreur. La communauté internationale ne peut pas fermer les yeux. La réaction ce soir de Jean-Marc Ayrault après cette nouvelle attaque chimique en Syrie, au moins 58 morts dont 11 enfants. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui l'affirme sur la ville rebelle de Khan Cheikhoun. L'OSDH évoque également 150 blessés. De son côté, Damas dénonce une calomnie. La tour Eiffel sera éteinte ce soir à minuit en hommage aux victimes de l'attentat d'hier à Saint-Pétersbourg. Le bilan est de 14 morts, une cinquantaine de blessés. Le suspect a été identifié par la police russe, un kamikaze kirghize. Il est âgé de 22 ans. Vous le suivrez en direct sur notre site internet franceinfo.fr. Le débat pour les 11 candidats à la présidentielle vient tout juste de commencer. C'est une première en France à la télé, organisée par deux chaînes info. Le débat au total durera 3h30. Le parquet de Lille ouvre une enquête préliminaire sur des soupçons de fraude du Front National au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais entre 2010 et 2015. Selon le Canard enchaîné, les enquêteurs soupçonnent le FN d'avoir rémunéré sur des fonds publics des collaborateurs. Ils auraient en réalité travaillé pour le parti, notamment David Rachlin, aujourd'hui directeur de campagne de Marine Le Pen. Et puis le diamant Pink Star, vendu pour un montant record de 71 millions de dollars, 67 millions d'euros pour cette pierre précieuse de plus de 59 carats. Une enchère aujourd'hui à Hong Kong. L'acheteur, par téléphone, est resté anonyme.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, méfiez-vous surtout des horaires qu'on vous donne dans les médias, car le débat a déjà commencé. Depuis 20h40, nous en sommes toujours qu'à la présentation des candidats. Donc 3h45, bon courage. On parle justement de ce désenchantement de la politique à propos des Français qui ne sauraient pas pour qui voter. Jacques Isabello, quand on vient d'entendre là, par exemple, le Front National, encore soupçon d'emploi fictif, c'est pas la première fois. On l'a vu au Parlement européen. L'affaire Fillon, Bruno Leroux qui démissionne également de son poste. Est-ce que finalement, cette ambiance aussi fait un désenchantement et trouble une nouvelle fois les électeurs, surtout en pleine période électorale.
Assurément, et même encore un peu en arrière, le fait que le président en exercice, parce que rappelons-nous que notre président ne se présente pas à cette élection, ce qui est quand même hallucinant, et encore il y a 5 ans, on nous avait prédit le Bad Godesberg du Parti Socialiste avec l'avènement de Dominique Strauss-Kahn, et paf, lui aussi, il a sauté. On nous avait dit qu'Alain Juppé serait notre futur président, et puis on a choisi quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Donc les gens ne sont pas des spécialistes de la politique, et c'est normal qu'ils soient...
Non, mais ce qui est perturbant, c'est qu'ils ne sont pas spécialistes, mais on voit que finalement les Français aiment la politique.
Ils adorent ça.
Mais ont un peu plus de mal avec les politiques.
Mais ça va se cristalliser beaucoup plus tard, et je pense qu'il faut continuer de les étudier, il faut continuer de leur présenter les programmes pour qu'à la fin, ils fassent leur choix. Et les débats à la télévision vont leur servir. On regardait un peu les écrans, ouais. Et cette espèce de, parlons du terme compliqué, mais de sémiologie, c'est-à-dire les mots, l'image et cette attitude paraverbale nous permet aussi de dire j'aime, je suis attiré par cette personne. Et aux États-Unis, vous savez, ils ont un test qui s'appelle le beer test. Hein. Juppé l'a pratiqué
Qu'est-ce
lors de la campagne.
Qu'est-ce que c'est que le beer test ?
Eh bien, le beer test, les Américains vous disent ok, on a compris, c'est pas forcément le meilleur. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'à un moment, on aimerait bien aller boire une bière avec notre président des États-Unis. Il a plein de conseillers.
D'accord.
Et ça fait partie du choix. Et donc, cette attitude
Juppé
lors des débats...
Juppé n'a pas dû réussir le beer test. Alors,
si lors des débats, c'est vrai qu'il l'a un peu loupé. Mais ça fait partie de ce que l'électeur apprécie au moment de mettre son bulletin dans le... Alors, c'est me fait pas dire que c'est uniquement
non,
mais ça, mais...
Faut qu'à boire avec modération, parce que déjà, on a des problèmes avec le CSA sur le temps de parole, donc on va pas en rajouter. Justement, Vincent Trémollet, il y a un sujet qui revient beaucoup en ce moment, comme à chaque, finalement, échéance électorale. Aujourd'hui, le suffrage du vote blanc, est-ce que pour vous, ça pourrait être une solution par rapport à l'abstention, justement, dans les différents scrutins? Est-ce que, finalement, le vote blanc, ça serait intéressant?
Qu'on puisse s'exprimer, oui, mais je pense que ça n'aura jamais la valeur. Ça sera oublié au bout de quelques heures. Moi, je pense que l'enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte que la France ne devienne pas comme la démocratie américaine, c'est-à-dire un pays où quasiment la moitié de la population ne vote pas à l'élection présidentielle, et notamment les classes populaires.
Oui, parce mais que dans un vote qui est organisé le mardi, voilà, donc, ça aide aussi.
Voilà, celles qui votent le moins et qui s'abstiennent, et qui en général votent à l'élection présidentielle, ce qui amène ce score de 80% de participation, c'est ce qu'on appelle les classes populaires. Et le danger, qu'elle soit dégoûtée de l'exercice démocratique et qu'elle se réfugie au début dans une révolte silencieuse et abstentionniste, mais après on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc moi, dans les chiffres que je vois aujourd'hui, avec ces chiffres impressionnants de 35% d'abstention, on voit peut-être cet amendement de la classe populaire. Ça pourrait avoir une conséquence sur le résultat, puisque vous avez, comme le disait Robin, un électorat senior qui va voter et qui va en général va voter.
On l'a vu aux primaires d'ailleurs.
Va voter pour François Fillon, et que l'électorat populaire et l'électorat qui, en général, vote pour Marine Le Pen. Donc, l'abstention desservirait dans ces cas-là le score du Front National.
Robert Rivaton.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, la percée des candidats dits réformistes tient beaucoup au fait qu'aujourd'hui, alors de manière peut-être moins immédiate ou moins pressante que je vais l'expliquer, qu'une partie des retraités craint pour ses retraites publiques et donc souhaite qu'une partie des réformes soit faite sur la sphère productive. On peut parler de ça pendant...
Donc pour ça vous, c'est pour ça que se sont déplacés...
Mais très clairement, vous avez expliqué une partie du succès de la primaire, ça fait qu'aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion vous avez une majorité de gens qui se dégagent par exemple pour la réduction, la diminution des allocations chômage. Quand vous regardez dans le détail, vous voyez que c'est un taux qui est extrêmement élevé chez les retraités, beaucoup plus bas chez les gens qui sont concernés, c'est-à-dire les actifs. Et aujourd'hui vous avez une prise de décision qui va pour tous les Français, qui va être faite par plutôt une minorité de gens qui ont plutôt envie que les autres travaillent pour financer le modèle social.
Sylvie Vincent-Dombes, c'est ça?
Ça fait envie. Hein.
Oui, c'est non, mais vous avez l'impression que voilà, aujourd'hui, l'abstention, on l'a vu au régional, notamment chez les plus jeunes, en premier, ils s'abstiennent ou ils votent Front National, mais c'est toujours l'abstention, la fameuse expression premier parti de France.
Je me demande si, s'agissant des jeunes, justement, le troisième écran dont on parlait n'est pas hautement responsable. Parce qu'on voit, nous, dans nos enquêtes, que l'accès à l'information se passe maintenant beaucoup via les réseaux sociaux, via Facebook, etc., qui servent d'intermédiaires. Et du coup, il y a une espèce d'éclatement de l'information qui est en tout petits morceaux et qui est empêche véritablement une réflexion là-dessus. Et je pense que cette consommation de l'info, cette consommation de l'impression que donnent les uns et les autres est tout à fait antinomique avec une démarche politique. Et
en tout cas,
je trouve ça très alarmant.
Ça sera observé, en effet, de près. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Un débat ce soir à suivre sur franceinfo.fr. Merci beaucoup à Jackie Isabelle d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci Robin Rivaton. Vincent Trémollet, à une Figaro demain, j'imagine.
Non, il y a un très beau dossier, un dossier très fourni sur le visage épouvantable de la guerre en Syrie.
En Syrie, donc à voilà, retrouver demain
à retrouver dans le Figaro et bien entendu dans le compte-rendu aussi du débat interminable,
bien
mais
sûr,
très intéressant
et
de ce soir.
À une très mauvaise heure pour nous autres quotidiens voilà, du matin.
Très bien, à retrouver également.